Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence de la MEP intitulée « Une politique européenne est-elle possible ?» Un mot sur la MEP. La MEP est une jeune association née il y a maintenant 2 ans au sein de la mention « Études politiques » de l'EHESS. Et en guise d'introduction, nous voudrions présenter très brièvement les 3 objectifs principaux que la MEP entend poursuivre. Premièrement, participer à la réflexion en études politiques. Les questions politiques nous passionnent et nous souhaitons les étudier en profondeur. Pour ce faire, notre ambition est de mobiliser les ressources et les méthodes de la recherche académique, tout en gardant une vision d'ensemble des phénomènes et des problèmes politiques. Une vision d'ensemble de ce qu'on appelle le politique. En accord avec l'esprit de cette école, le HESS, nous tenons à faire dialoguer ensemble les disciplines et les approches, sciences politiques, philosophie, sociologie, histoire, relations internationales, droit, anthropologie, travaux sur les aires culturelles, etc. Dans cette perspective, nous accueillons toutes les démarches qui aident à mieux comprendre le politique. Que ces démarches reposent sur l'étude de textes classiques, sur l'analyse de matériaux historiques ou sur l'enquête de terrain, et qu'elle se situe à une échelle globale, nationale ou locale. L'essentiel pour nous est d'arriver à saisir les principaux enjeux des problèmes politiques dans ce qu'ils ont de transversal. Notre 2e objectif consiste à engager ces savoirs dans le débat public. Notre contexte actuel invite effectivement aux questionnements transversaux sur de nombreux objets politiques. La guerre, l'Europe, la mondialisation, la démocratie, la représentation, la justice, le lien social et beaucoup d'autres encore. Dans une telle conjoncture, toute entreprise de rapprochement du monde de l'action et du monde de la pensée nous semble la bienvenue. Aussi, nous n'hésiterons pas à poser les questions dans toute leur généralité, bien que les savants habitués aux sujets plus circonscrits puissent à l'occasion s'effrayer de cette ampleur. Et nous ne craindrons pas d'avoir recours aux ressources de la science, même si les acteurs politiques, souvent étrangers à l'univers académique, s'impatientent parfois devant la complexité et la subtilité des problèmes. Enfin, notre 3e objectif est de réunir tous ceux qui se reconnaissent dans cette manière d'aborder les études politiques. Les membres et les anciens membres de la mention études politiques de l'EHESS et du Centre Aron, bien évidemment, mais également tous les amis, du sein de l'école ou d'ailleurs, tous ceux qui seraient intéressés par notre démarche et qui voudraient nous accompagner, nous soutenir ou même s'investir à nos côtés. Depuis ce matin, le bureau de l'association est constitué de 7 personnes, aidées par une équipe de plusieurs membres. Le conseil d'administration de la MEP réunit 15 autres personnes et l'association compte aujourd'hui un total de 140 membres. Pour s'informer sur nos activités ou nous rejoindre, il suffit de se rendre sur notre site internet, vous voyez l'URL, d'aller sur l'onglet AMEP, de cliquer sur liste de diffusion et adhésion, et vous pouvez alors vous inscrire à notre liste de diffusion et adhérer à l'association, ou bien nous contacter pour tout autre sujet. Et comme nous avions la question à propos des cotisations, les membres qui voudraient cotiser, eh bien c'est Sophie qui a le listing s'il y a des membres qui voudraient cotiser dans la matinée. Pour finir, nous tenons à remercier la mention études politiques, le CESPRA ou Centre Aron et l'association EHESS Alumni pour leur aide financière et morale. Cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu sans eux. Un grand merci également à Cynthia Saloum qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui et Marie-Hélène Wirth qui ont organisé cet événement au nom de la MEP. Et nous sommes bien sûr très reconnaissants à nos 2 invités d'avoir accepté de venir aujourd'hui. 2 anciens membres du Centre Aron, tous 2 intéressés à la fois par la pensée et par l'action, réunis autour d'une grande question politique contemporaine, finalement, il n'y avait peut-être pas de meilleure manière d'illustrer aujourd'hui les trois objectifs de notre association. Encore merci à tous pour votre présence et je cède la parole à Marie-Hélène.
Merci, merci beaucoup Benjamin et merci à tous aussi d'être là aussi nombreux. Alors moi très rapidement, je vais remercier aussi nos deux invités. Simplement, la conférence d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne d'un des objectifs principaux de la MEP et celui qui a réellement été porteur de sa création, à savoir qu'il nous semble urgent... à tout le moins intéressant, mais peut-être aussi urgent, de penser des problèmes politiques contemporains à partir de l'approche qui est celle qui nous a été transmise ici à l'EHESS au sein de la mention études politiques et puis au Centre Aron, non pas qu'elle soit exclusive et qu'il y en ait une seule de valable, mais simplement précisément parce qu'elle prend en compte beaucoup de facettes du politique et qu'elle permet de prendre une distance par rapport au phénomène politique, aux faits politiques, aux faits générateurs d'une société qui est assez complète, qui ne sera jamais exhaustive, mais qui nous semble au moins intéressante à partager. Alors, dans cet esprit, nous nous étions mis d'accord pour organiser des conférences, et c'est la première du genre, destinées au public le plus large possible, aux gens que certaines problématiques politiques contemporaines ou d'actualité intéressent en particulier et qui ont envie de sortir du débat, on va dire, purement journalistique, même s'il a il a aussi son intérêt. Alors, le débat d'aujourd'hui, la conférence s'appelle « Une politique européenne est-elle possible ?» Alors, la question n'a rien de provocateur, mais précisément, la poser comme cela permet de rentrer dans un débat qui a l'avantage du contradictoire, sans avoir les défauts du piège où d'emblée on va défendre un point de vue sur l'Europe plutôt qu'un autre. On est pétri de ce type de discours et on a du mal à voir réellement ce que nous voulons d'un point de vue purement politique, ce à quoi nous aspirons aussi en tant que citoyens, puisque c'est l'objectif aussi de ce type de conférence, de se mettre à la place d'un point de vue aussi citoyen. Bon, notre questionnement pour cette conférence en particulier, il puise à la source d'abord de deux constats incontournables qui ont résulté de l'actualité européenne de l'année en cours. Alors la question qu'on se pose à partir de ces constats, sur lesquels je vais revenir très brièvement, c'est quel débat réellement citoyen cela provoque, mais au-delà du débat, quelle réflexion politique permet de dépasser les faits. Et une fois qu'on a dépassé les faits, on peut transformer le débat éventuellement en projet, commencer à penser à des réponses et à des pistes d'action qui correspondent à une vision du politique, encore une fois, assez complète. Bon, les faits en question, ce sont bien sûr les élections européennes, sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, peut-être que vous avez l'intention de le faire, mais en tout cas, on est parti des faits. Et puis, la crise ukrainienne, là non plus, je ne vais pas faire un exposé sur ces deux faits, hein, sans chercher à les problématiser tout de suite. Mais les questions qui se posent sont celles du profil politique que l'Europe se donne face à des crises ou des faits ou des événements de cette ampleur qui ne demeurent pas situés dans le temps mais qui ont des impacts réels par la suite. Donc pour cela, nous avons pensé qu'il serait pertinent d'avoir des invités qui connaissent particulièrement bien la question européenne, qui viennent du Centre Aron, ça c'est pour la partie réseau et pour la dimension d'une association qui se construit. Et qui, comme l'a rappelé Benjamin, sont d'abord des chercheurs et des chercheurs intéressés par l'action aussi. Donc nous avons l'honneur de recevoir Pierre Rossan-Vallon, qui est professeur au Collège de France au sein de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, et Luc Van Middelaar, qui était jusqu'à présent le conseiller du président du Conseil européen, Monsieur Van Rompuy, et qui continue, qui passe le relais actuellement à la nouvelle équipe, et qui va bientôt retrouver la sphère plus intellectuelle qu'il n'a jamais vraiment quittée, mais qui va s'investir en tant qu'auteur indépendant de manière plus développée que ses activités au sein du Conseil le lui permettaient jusqu'à présent. Voilà, je vais vous laisser la parole tout de suite. Chacun va nous présenter un exposé avec des questions politiques qu'il aura envie de traiter aujourd'hui. Alors, le temps est assez libre, je vous avais dit entre 30 et 40 minutes, ça peut être 50, enfin, voilà. Et ensuite, vous poserez les questions que vous aurez envie de poser. Voilà, on va le faire de façon assez simple. Donc, je ne suis là que pour modérer les débats éventuellement. Et je laisse la parole à nos deux invités. Merci beaucoup.
Merci Marie-Hélène de cette introduction généreuse et de cette invitation, et aussi à vous tous d'être venus ce matin. Moi, ça me fait plaisir en effet de me retrouver ici dans ces lieux où d'habitude j'étais assis de l'autre côté, et je me suis rendu compte que ça remonte à 15 ans ce mois-ci que la première fois je suis arrivé dans ce centre en venant du Nord, des Pays-Bas dans mon cas. Et pour entamer une recherche doctorale, un DEA, si ça existe toujours, qui n'a abouti dans une thèse proprement dite que 10 ans plus tard, donc rassurez-vous, il y a de l'espoir pour ceux qui prennent leur temps, et qui la thèse que dans un premier temps j'avais publiée dans ma langue maternelle est parue finalement en français chez Gallimard en 2012. Et s'intitule Le passage à l'Europe, histoire d'un commencement. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre, que certains ont peut-être vu, c'est justement parler de l'Europe, de l'Union européenne, mais en tant que, oui, mettons, philosophe politique, c'est-à-dire en ne pas présupposant une réponse à la question s'il existe, oui ou non, une politique européenne, et ça m'amène sur à parler de puisque comme j'avais quand même étudié à Paris, j'avais fait un plan en 3 parties, chacune avec 3 sous-parties même, donc 9 chapitres, et les 3 grandes parties c'est sur la prise de décision, hein, comment ça se fait, comment est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui 27 États membres puissent prendre des décisions ensemble. Le deuxième volet, je regarde à la politique comme une action dans l'histoire face à l'inconnu. La politique comme une façon dont une société se comporte avec l'aléatoire. Et est-ce que l'Europe en est capable, oui ou non? Et la troisième grande partie examine encore une autre perspective de la vie politique ou du politique tout court, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut établir un rapport entre les gouvernants et les gouvernés, entre l'État et la rue, ou les dirigeants et le peuple. On peut formuler la question en plusieurs façons, évidemment. Et à chaque fois, donc, j'ai essayé de partir d'une question ouverte sur si oui ou non une politique européenne existe, et en puisant en même temps dans une expérience du terrain que j'avais entre-temps acquis, parce que j'ai quitté ces endroits ici vers 2002-2003 pour aller déchiffrer sur place à Bruxelles, où j'ai travaillé 2 ans. Et ensuite, j'étais aussi dans la politique nationale aux Pays-Bas, dans un parlement national en tant que conseiller également. Et après, c'était fin 2006, j'ai quitté ce travail politique, juste comme je vais le faire dans quelques mois, pour me consacrer vraiment à l'écriture. Et c'est seulement là, donc après 5 ans aussi d'expérience politique, ou dans les coulisses plutôt, que j'ai finalement achevé cette thèse de doctorat et cette réflexion. Alors, ce que je propose pour aujourd'hui, c'est ne pas revenir sur ce que j'ai essayé de développer dans mon livre, parce que ça, il est disponible, il n'y a qu'à le lire, mais de partager plutôt quelques expériences des dernières années, où j'ai été donc dans l'équipe, dans le cabinet, comme on dirait, ici aussi, du président du Conseil européen, du début de son mandat, début 2010, jusqu'à la fin, il y a 10 jours, qui est un endroit privilégié pour observer et participer à la politique européenne, étant donné que le Conseil européen, comme vous le savez, c'est le lieu où les chefs d'État et de gouvernement se réunissent tous les 2 mois en moyenne, C'est-à-dire c'est le lieu où la politique européenne et la politique nationale au pluriel se croisent au plus haut niveau. Et moi, ce que je voudrais faire plus précisément aujourd'hui, ce matin, c'est non pas tant parler des élections européennes, ça j'espère qu'on pourra le faire pendant le débat. Moi, je compte prendre peut-être une petite demi-heure, peut-être vous aussi, puis ça nous laissera un peu le temps d'un échange après, mais de parler des deux grandes crises qui ont secoué l'Union européenne et l'Europe ces deux dernières années, la crise financière et économique, crise de l'euro, on peut l'appeler aussi, d'un côté, et puis d'autre côté, la crise plus géopolitique, encore en cours, en quelque sorte, autour de l'Ukraine et du rapport de l'Europe à la Russie. Et je voudrais essayer de trouver des rapports entre ces deux crises pour voir ce que ça nous enseigne sur la politique européenne. Et je voudrais essayer de le faire sous un signe, bon, c'est un peu rassembleur, peut-être trop simplificateur, mais sous le signe de l'idée d'un retour du politique dans ces deux moments des crises. Et pour commencer, et pour que vous saisissiez déjà qu'il puisse y avoir aussi des rapports inattendus entre ces deux aspects de la vie politique européenne que sont la monnaie et la géopolitique, je voudrais commencer à évoquer une petite scène qui a lieu il y a presque 4 ans à Tallinn, capitale donc de l'Estonie. La scène se joue le 1er janvier 2011, peu après minuit, dans le grand théâtre de la ville, l'Opéra national d'Estonie, où on voit sortir le premier ministre estonien, Andrus Ansip, du bâtiment. Il retire les premiers billets euros de son pays d'un guichet à l'extérieur du bâtiment. Il rentre, sans doute sur une estrade, et il prononce un discours à son peuple, aux Estoniens, qui commence avec les mots « Avant toute chose, donc Andrus Ansip, 1er janvier 2011, avant toute chose, l'euro signifie pour nous la sécurité. L'euro est pour nous l'assurance que l'Estonie appartient vraiment à l'Europe. » Alors, rappelez-vous donc, début 2011, c'est le temps où les commentateurs américains avançaient la date précise de la fin de l'euro, que des spéculateurs misaient des milliards là, sur une sortie de la Grèce, et que les gouvernements de la zone euro, sommet de vérité après sommet de vérité, luttaient contre la contagion financière. Même les amis de l'Estonie alors disaient que le pays avait acheté le dernier billet pour le Titanic. Alors nous sommes 4 ans plus tard et on constate que peut-être le pays balte a été mieux inspiré que bien les experts anglo-saxons. Non seulement la zone euro a survécu la crise, mais en raison du conflit qu'oppose l'Europe à la Russie, en fait, toute l'Europe apprend à vitesse accélérée la valeur politique d'une appartenance à cet ensemble. D'ailleurs, entre-temps, la Lettonie a aussi rejoint la zone euro et la Lituanie le fera le 1er janvier prochain, donc dans 3 semaines, et la Pologne pourrait accélérer sa demande. Donc là, on voit très clairement que la monnaie commune revêt aussi, outre d'être un enjeu économique, une importance politique. Alors pourquoi s'intéresser à des moments de crise? Moi, je trouve que c'est très intéressant aussi d'un point de vue heuristique, puisqu'un moment de crise est souvent un moment de vérité. quand le sol tremble sous vos pieds, quand un invité inopportun frappe à la porte, on peut souvent découvrir des choses qu'ignorait, soit des forces intérieures qu'on ignorait, soit des faiblesses qu'on aurait préféré cacher. Et ça a été la même chose pour l'Europe aussi dans ces deux crises, à la fois des faiblesses que peut-être on connaissait déjà, mais aussi des forces inespérées ou imprévues qui se sont mises à jour. Ce sont vraiment des moments de clarification. Et je voudrais essayer de résumer ça en quatre principes fondamentaux qu'on découvre à travers ces deux crises pour l'Europe. D'abord, et je l'ai déjà un peu laissé entendre, que l'Europe, ce n'est pas uniquement l'économie, c'est vraiment la politique. Deuxièmement, elle œuvre à en avoir recours aussi à la force, et pas uniquement à travers des règles et des normes. Troisièmement, et c'est plus simple à voir, l'Union européenne est devenue une réalité quotidienne pour tous les citoyens, qu'on le veuille ou pas, etc. Mais j'essaie d'observer le temps. Et ce n'est plus seulement un projet pour quelques-uns, comme ça a été encore le cas il y a 20 ans. D'ailleurs, la première fois que j'étais à Paris, c'était plus de 20 ans, en étudiant Erasmus. Voilà. Donc, à cette époque-là, l'Europe, c'était pour les agriculteurs qui avaient les grands fonds, pour les grandes entreprises et les étudiants Erasmus. C'était à peu près ça, plus les quelques juristes et chercheurs. Troisième principe qu'on voit aussi à nouveau, que l'Union est un club de pays et de peuples, et à mon avis, elle est amenée à le rester. Avant de venir sur les quatre points, peut-être juste encore une fois, pourquoi mettre les deux ensemble, l'euro et l'Ukraine? Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on est dans une affaire de, non pas uniquement de solidarité, mais aussi de sacrifice. Solidarité, c'est sympathique, une belle valeur, mais le vrai test, c'est quand est-ce que ça fait mal, hein? Quand est-ce qu'il y a, quand est-ce que ça coûte, par exemple, pour protéger notre État, la Grèce et d'autres, les aider à se protéger contre les marchés. Même question de la solidarité et du sacrifice, c'est aussi posé dans l'affaire des sanctions contre la Russie cet été. Parce qu'on sait très bien, si on veut faire mal à notre pays, on se fait mal aussi. Parce que d'habitude, le commerce, comme on explique depuis Montesquieu et avant, c'est bon pour les deux parties. Donc si on fait moins de commerce, ça fait mal aux deux parties. Et est-ce que nous, on est prêts pour souffrir, hein, indirectement, pour des objectifs politiques? Et ces questions sont en fait tout à fait nouvelles et montrent que l'Union entre sur un nouveau terrain. Alors cette Europe politique, Europe plus politique, il n'est pas étonnant que, mettons, les eurosceptiques le considèrent avec suspicion. Des partis comme celui de Nigel Farage au Royaume-Uni, de UKIP, the UK Independence Party. Il était en train d'applaudir quand l'euro était sur le point d'imploser. Et aujourd'hui, ce parti est complètement aligné avec Moscou sur l'Ukraine. Même chose pour le Front national de Marine Le Pen. Vous avez sans doute, il y a quelques semaines, aussi lu les nouvelles qu'elle a reçu près de 9 millions d'euros d'une banque russe pour fortifier sa position dans le paysage politique français, et que même pour des montants de 40 millions d'euros sont en jeu. entre parenthèses, ça nous rappelle des logiques des guerres froides, sauf que Moscou, ce coup-ci, ne finance pas le PSCF, mais le Front National. Revirement intéressant. Donc ça, c'est peut-être pas tellement étonnant hein, que les Nigel Farage et Marine Le Pen regardent tout cela avec suspicion. Ce que moi, je trouve plus intriguant, c'est les réserves qu'émettent souvent, mettons, le camp euro-fédéraliste ou euro-enthousiaste à certains de ces développements. Puisque le retour du politique au sens fort sape un certain nombre d'illusions et en fait mine l'image aussi que l'orthodoxie bruxelloise a d'elle-même. Hein ? Puisque la communauté européenne n'était-elle pas à l'avant-garde de la paix universelle ? N'était-elle pas le précurseur de la fin de l'histoire ? Ou du moins de la suppression de l'État-nation ? L'Europe a parfois été perçue comme la promesse d'une fin du politique tel qu'on le connaissait jusqu'alors. Et certains idéologues bruxellois ont essayé de théoriser cela. Sur cet arrière-plan idéologique et intellectuel, on comprend aussi les réactions plutôt tièdes qu'on peut observer dans certains cercles à Bruxelles devant le retour du politique. Voilà, regardons maintenant de plus près les quatre lignes de force, les quatre principes que j'avais énumérés. Alors, donc, le politique qui prime sur l'économique, l'idée qu'il n'en va pas uniquement des règles, deuxième point, troisième point, que l'Europe concerne tous et pas uniquement quelques groupes, et quatrièmement, sur la nature politique de l'Union européenne en tant qu'union d'États. Alors, quant à la politique qu'on voit plus clairement à travers ces crises, il est évident que, depuis le début, la construction européenne a toujours été perçue comme un projet politique. Hein, c'est clair pour les fondateurs dans les années 50, 60, etc. Mais le fait est qu'on a toujours privilégié, mettons, des parures ou des outils ou des moyens économiques pour y parvenir, le marché et la monnaie. Donc ça cache parfois le politique sous-jacent. Mais on la voit réapparaître, encore une fois, dans des moments de crise. Je crois que c'est vrai pour ce qu'on a vu cette année 2014 à propos de l'Ukraine. Il y a eu un débat très intéressant sur les sanctions dans plusieurs pays. En France, l'Allemagne aussi, le débat est très vif, est toujours très vif d'ailleurs. Encore un grand revirement la semaine dernière. Et c'est un débat sur, mettons, un équilibre à trouver entre des intérêts économiques d'un côté, les entreprises allemandes et autres entreprises européennes pour leurs exportations, importations vis-à-vis de la Russie, et, mettons, des principes ou des intérêts plus politiques dont la stabilité politique du continent en tant que tel, ou dont la paix. Et on a vu que même s'il y a eu des hésitations au début, mettons au mois de mars, avril, mai, et même s'il y avait bien sûr des divergences entre les États, et moi, j'ai vu ça de très près, donc, parce qu'il y a eu plusieurs sommets de crise dévoués à la question ukrainienne dès l'invasion de la Crimée par la Russie le 6 mars 2014, un premier sommet de crise, où donc, tous les dirigeants nationaux, les 28 présidents et premiers ministres se sont réunis à Bruxelles pour discuter de la situation. Qu'est-ce que ça signifie pour notre sécurité commune ? qu'un pays européen, la Russie, saisit un bout de tiroir de notre pays. Bien sûr, on peut parler longuement du droit international à cet égard, mais je veux dire, c'est comme ça que ça a été vécu. Et bien sûr, les uns et les autres n'ont pas les mêmes réflexes historiques de la part de l'histoire, de la géographie ou des intérêts économiques. Mais il est alors plutôt surprenant qu'ils aient quand même réussi au fil du temps à avoir une ligne commune, à chaque fois à l'unanimité d'ailleurs. Le Conseil européen, ce n'est pas un lieu où on vote. 5 ans, c'est arrivé 2 fois. C'est un lieu où on trouve un consensus autour d'un projet commun, où tous les pays de la Hongrie à la Suède, au Royaume-Uni, au Portugal, qui est franchement très loin de la Russie, et à ma chère Estonie, ont dû se retrouver dans une approche vis-à-vis de ce danger. Alors, depuis cette première réunion, il y a eu une approche double, à la fois par rapport à l'Ukraine, soutenir ce pays économiquement et politiquement, et par rapport à la Russie, d'essayer de mettre la pression tout en gardant ouvert un espace de dialogue, en instaurant un régime de sanctions graduelles qui pourrait s'augmenter en fonction des événements. Et on a hésité très longtemps, parce qu'il y avait 3 étapes ou trois stades dans ces sanctions décidées dès le mois de, donc début mars. Pendant très longtemps, on a hésité de franchir le pas vers le stade le plus intensif des sanctions qui couvrent un grand terrain économique. Mais le basculement final a eu lieu cet été, après que l'avion malaisien avait été abattu en-dessus de l'Ukraine orientale, par on ne sait pas qui, mais en tout cas il y avait 300 morts, dont 200 de mes compatriotes, 200 néerlandais. C'était une tragédie nationale dans ce pays, qui avant était aussi très réticent d'ailleurs vis-à-vis des sanctions, mais où l'opinion publique a basculé suite à cet accident. Mais on l'a senti plus largement que ça, c'était un moment où l'équilibre entre les arguments géopolitiques et économiques a basculé vers des sanctions plus fortes, parce que là, on était dans un acte perçu comme un acte de guerre. Mais on a aussi vu dans la crise de l'euro, c'est peut-être plus intéressant et plus subtil, comment des forces politiques ont pu réapparaître à certains moments. Parce que, bien sûr, quand on ouvrait les journaux entre 2010 et 2011 et 2012, c'était toujours sur les banques, sur les spreads, c'est-à-dire les différences des taux d'intérêt entre l'Allemagne et la Grèce, etc., sur les déficits, les dettes et tout cela. Mais il n'empêche que là aussi, il y a un moment décisif dans l'été 2012 où on avait tout mis en place pour qu'une sortie de la Grèce soit devenue possible, d'après les experts économiques. Donc, où les risques économiques étaient devenus maîtrisables d'une sortie d'un pays de la zone euro, et où, en fin de compte, les dirigeants politiques, y incluant la chancelière allemande, ont décidé que des intérêts politiques primaient sur cela. Et là, je peux parler de la chancelière allemande. Elle ne voulait pas prendre le risque d'une sortie de la Grèce, non pas pour les frais éventuels, les coûts que ça entraînerait, mais aussi en ce que ça, ainsi à cause du risque que ça constituerait pour la stabilité sur les Balkans, pour le rapport entre la France et l'Allemagne, pour tout ce qui avait été fait depuis 60 ans avec l'unification européenne, pour même l'image de l'Europe dans le monde. Et quelque chose comme, bon, je dis ça, l'image de l'Europe dans le monde, ça peut paraître abstrait, mais si vous êtes la chancelière allemande et si vous appelez de temps en temps des grands dirigeants internationaux style Obama, Poutine, que vous rencontrez au G8, au G7, au G20 et vous vous faites engueuler et, parce que votre monnaie ou risque d'entraîner l'économie mondiale dans une mauvaise situation, l'image de l'Europe dans le monde, ça veut dire quelque chose de très concret. Et c'est des arguments politiques peut-être plus insaisissables que les coûts qui ont fait de la sorte que la Grèce ait pu rester dans la zone euro. Ce qui veut dire aussi que la colle politique invisible qui maintient unie l'Union s'est révélée beaucoup plus forte qu'on ne le croyait. Et je remets encore en mémoire donc les spéculateurs, les Américains qui avaient dit que ça ne tiendrait jamais le coup. On vous l'avait toujours dit, ça ne marcherait pas. Et cette force inattendue est peut-être pas inutile de garder à l'esprit avant de se mettre à chaque fois à paniquer à l'idée de défis futurs. Bon, je vais être un peu plus rapide pour les trois autres points que j'avais voulu traiter. D'abord, le deuxième, le fait que dans ces moments politiques de crise, on voit aussi une politique qui ne repose plus uniquement sur des règles et sur les normes, mais où il s'agit aussi de plus en plus d'agir ensemble en tant qu'union d'États. Dans la crise ukrainienne, c'était clair qu'une ancienne approche de la politique du voisinage, comme on dit à Bruxelles, ou de la politique de l'élargissement a atteint ses limites, ses frontières, conceptuelles aussi, pas uniquement géographiques. Et là, il était intéressant le moment où les Européens ont demandé à l'Ukraine, il y a un an, de choisir, en novembre 2013, de choisir entre la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne et avec un pacte du même type avec la Russie. Et on leur a expliqué qu'il fallait choisir, entre autres à cause des règles de l'OMC. Alors, ça, c'est peut-être pas... C'était peut-être un peu, mettons, désinvolte de demander ce choix à partir des règles de ce type. Là où, comme la suite l'a montré, c'est un vrai géopolitique, un vrai choix géopolitique, même une question de guerre et de paix qui était en jeu. Même chose, on est en train de découvrir, de redécouvrir qu'une politique européenne, économique, ne peut pas reposer uniquement sur des normes. Et là, il serait intéressant, mais j'ai pas le temps ici, mais de tracer plus en détail comment le mot gouvernement fait son entrée dans le discours européen, et notamment, encore une fois, dans sa parure économique, de gouvernement économique. Ça, c'est un terme qui est très cher au gouvernement français depuis très longtemps, depuis la naissance de l'euro, et où ses partenaires ont toujours résisté à ce terme, et notamment les Allemands, parce qu'ils voient dans ce mot gouvernement une atteinte potentielle à la fois à l'indépendance de la Banque centrale européenne et aussi une atteinte potentielle à une politique qui repose avant tout sur les règles. Du coup, on voit souvent le terme assez moche de gouvernance, hein, dans le jargon. Et gouvernance, là, c'est une affaire de règles et des, où tout devient, en fait, ça devient un spaghetti où personne ne plus se retrouve, où on ne voit plus très bien qui est responsable, pourquoi. Alors, il est intéressant de voir qu'entre 2010 et 2012, il y a bien eu lieu un glissement sémantique où les Allemands aussi parlent maintenant en allemand donc de Wirtschaftsregierung, donc gouvernement économique, timidement peut-être, mais certes. Et ça montre qu'on sent bien qu'à des moments de crise, il faut un gouvernement, hein, il faut un lieu de pouvoir identifiable devant un public qui puisse assumer de la responsabilité devant un public, devant des électeurs, et qu'on ne peut pas se contenter uniquement de gouvernance, c'est-à-dire, comme je disais, une soupe de trucs que personne ne comprend. Mais tous ne sont pas encore acquis à cette cause. Dans mon pays, les Pays-Bas, on continue à parler de gouvernance, de governance, on emploie le terme anglais. Donc le gouvernement évite de parler de gouvernement, parce que par rapport à l'Europe, hein, pas par rapport à lui-même, évidemment. Voilà, moi dans mon livre je trace aussi parfois des glissements sémantiques de ce genre qui peuvent être très révélateurs des forces invisibles que les mots ont leur sens. Alors troisième point, troisième découverte de cette crise, ou troisième façon dont on voit un retour du politique, c'est que la politique européenne est devenue de la politique intérieure et quotidienne. C'est-à-dire, et là je pars avant tout de la crise de l'euro, que les gens ont découvert qu'est-ce que ça signifie vraiment de partager des institutions, et notamment qu'est-ce que ça signifie vraiment de partager une monnaie ou une frontière, c'est encore une autre histoire avec Schengen, mais parlons de la monnaie. C'est pas uniquement un changement des billets qui sort du distributeur, hein. C'est un changement de votre vie politique. Potentiellement c'était déjà le cas depuis l'introduction de l'euro, mais on ne l'a pas vraiment senti encore. C'est seulement quand on a dû s'intéresser collectivement à la vie politique grecque, par exemple. Et là, la dernière nouvelle de la semaine, il y a des élections présidentielles anticipées, peut-être la chute du gouvernement en janvier. Qu'est-ce que ça va encore entraîner? Non pas uniquement pour la Grèce, mais pour tout le monde. Là, je pars de janvier 2015. De même, on se rend compte qu'on doit s'intéresser à ce qui se passe mettons en Italie avec la dette, les autres pays regardent la France, regardent les Pays-Bas, donc tout le monde se regarde sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Interdépendance économique et interdépendance politique, qui est nouvelle. Donc, à un moment donné, les élections locales en Finlande étaient déterminées par ce qui se passait au Portugal. Tout le monde étudie aujourd'hui les arrêts de la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe pour savoir ce qui en sortira. Donc on sent là, il y a un espace politique européen, même un débat politique européen, bien sûr à travers des prismes nationaux, mais qui dépasse de loin ce qui se passe à Bruxelles, mais c'est vraiment entre tous ces pays qu'une politique européenne se forme. Alors pour finir, un quatrième point donc sur la nature de la petite bête, la nature de l'Union européenne. Là, la crise a été instructive aussi, dans le sens, encore une fois, je parle de la crise économique. Là, il y avait une crise où beaucoup de commentateurs ont dit, commentateurs américains, fédéralistes européens, ben voilà votre moment de vérité. Maintenant, vous que vous décidiez vraiment et pour de bon, est-ce que vous voulez vous unir ou mourir? Est-ce que vous voulez faire le grand saut fédérale, ou est-ce que vous optez plutôt pour l'éclatement et le déclin? Les plus rhétoriques d'entre eux l'ont présenté dans ces termes très binaires. Alors, cela ne s'est pas produit comme ça. Comme ils auraient pu comprendre s'ils avaient un peu mieux saisi justement la nature de l'Union européenne, qui souvent n'ont pas d'opter pour tel ou tel choix radical, mais justement pour rendre les tensions qui existent vivables et les maîtriser. Et concrètement, ça peut paraître très peu pratique, hein, d'avoir une monnaie et 18, bientôt 19 pays indépendants avec chacun leur parlement. Pas très pratique du tout. Pas du tout. Mais les pays vont perdurer. Et la monnaie aussi. Donc il faudrait bien essayer de faire vivre ensemble les deux, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui compte. Et je crois que c'est très important aussi pour justement pour la compréhension publique de l'Europe, d'arrêter de raconter l'histoire de l'Europe comme la fin préfigurée de l'État-nation, des pays, etc. Parce qu'une Europe politique, c'est ma conviction, mais pour une analyse plus approfondie, je vous renvoie à mon livre, une Europe politique ne saurait se construire et ne s'est jamais construite, en fait, contre les États, mais ça ne peut se construire qu'avec eux ensemble. Et je crois que la vie politique européenne tirerait bénéfice d'une meilleure compréhension de soi à cet égard. Je crois qu'en France, vous avez cette compréhension plus forte qu'ailleurs, mais par exemple en Belgique où je vis ou en Allemagne, les anciennes perspective d'un fédéralisme européen qui viendrait à bout des États est encore très fort. Alors je finirai ici avec une citation de Jacques Le Goff que j'avais retrouvée dans un des beaux articles publiés à son décès il y a quelques mois. Où Le Goff explique que l'idée d'un espace européen commun a gagné du terrain au XVe siècle, en même temps, en fait, que l'avènement des royaumes de France, d'Espagne et d'Angleterre. Et je cite Le Goff, « L'Europe est, dès sa naissance, une fédération de royaumes. Et ce que nous faisons actuellement, aujourd'hui, et encore donc en 2014 et 2015, c'est de façonner le prolongement de cette longue et riche histoire des peuples et des pays de notre continent. Et c'est pour ça que moi, je considère que le retour du politique, ce n'est pas un fantôme du passé, ni une aberration temporaire, mais en fait le seul moyen réaliste de préserver l'unité et la liberté, les libertés de l'Europe en vue de l'avenir. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé passionnant, où on devine maintenant qu'il y a quelque chose qui peut s'appeler le politique ou la colle, mais qui est sous-jacent à ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Je laisse la parole à Pierre Rossan-Vallon pour l'exposé suivant et nous passerons aux questions à sa suite. Merci.
Bon, Luc a une expérience européenne qu'évidemment je n'ai pas. Et ce qui est intéressant dans son exposé, c'est qu'il nous a dit comment il avait vécu de l'intérieur ces deux crises de l'Ukraine et de l'euro. Et je reviendrai en conclusion de mon exposé sur ces deux crises. Et pour discuter certains éléments ou interroger certains éléments de ce qu'il a mentionné. Mais avant d'en arriver là, je voudrais tout de même faire deux types de remarques. Un premier type de remarque sur ce qu'on peut appeler la nature de l'Europe et un second type de remarque sur son modèle politique. Le premier type de remarque sur la nature de l'Europe. Il ne faut pas oublier que si l'Europe a commencé avec la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et avec l'idée d'une communauté économique, c'est dans la vision classique de Montesquieu, c'est-à-dire que l'économie génère de la paix. Et on peut dire que la première raison d'être de l'Europe, cela a été de surmonter les désastres des années 30 et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Europe a tout de même été construite par une génération qui voulait conjurer ces désastres et qui a pensé que la meilleure façon de les conjurer, c'était de commencer par ce qui apporte le commerce quotidien entre les hommes et qui, par là, leur permet de surmonter les antagonismes qu'ils avaient manifestés auparavant. Et il me semble donc qu'on peut dire que c'est un but rétrospectif. C'était corriger, en quelque sorte, les dépasser les malheurs du passé. Et de fait, l'Europe a continué jusqu'à une période récente, disons jusqu'à la chute du mur de Berlin, à fonctionner de cette façon. Dans les années 70, a commencé à être posée la question du rapport, les termes sont apparus à ce moment-là, élargissement ou approfondissement. Ce fameux débat a commencé à se poser à ce moment-là, et la réponse qui a été donnée, c'est que la priorité de l'Europe, c'était de retrouver un sens politique démocratique et donc que sa priorité, c'était de faire rentrer dans le giron démocratique les pays qui l'avaient quitté, à savoir la Grèce, le Portugal et l'Espagne. Et donc, après la nécessité de surmonter les désastres de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a eu pour but de surmonter les désastres des dictatures. Et enfin, en 89, ceux du communisme. Alors même qu'à chaque fois s'est posée la question du rapport entre élargissement et puis approfondissement. Mais en permanence, la préférence a été donnée à cette fonction de soigner les désastres du passé, les désastres de la démocratie ou ce qui était ceux du communisme, enfin les désastres des dictatures. Et qu'en fait, cela a été véritablement ce qui était déterminant avec une exception, c'est l'entrée de l'Angleterre dans l'Europe, parce que ça ne répondait absolument pas à un de ces trois éléments-là, et c'est pour cela que c'était, au fond, la forme d'élargissement qui était la plus discutée et, au fond, la moins réussie aussi, parce qu'elle n'avait pas cette espèce d'évidence historique. Donc ça, c'est pour, je dirais, ce qui a fondé la nature de l'Europe et son identité. C'est ce projet, en quelque sorte, toujours un projet vis-à-vis du passé. Et un projet vis-à-vis du passé qui n'était pas tourné au début véritablement vers l'avenir, sinon un avenir qui serait différent du passé. La méthode. Ensuite, la méthode de façon constante et permanente, c'était celle que l'on peut dire des petits pas. Indépendamment de cette façon de guérir les maux du passé, c'est la politique des petits pas. Et celui dont j'étais proche, j'étais moins proche que Luc l'a été de Van Rompuy, mais j'ai quand même été très proche de Delors. Et Delors, combien de fois je l'ai entendu dire, c'est ça, l'Europe, c'est avancer un petit pas devant l'autre. Et sans avoir, je peux en témoigner, sans avoir véritablement de vision générale. Et pour lui, l'euro, c'était un pas un peu plus, ça allait être un pas un peu plus important. Mais c'est toujours une logique des petits pas, sans avoir de réflexion autre que négative, c'est-à-dire on peut rêver ou on ne peut pas rêver d'un modèle fédéral. Mais il n'y a jamais eu l'idée d'un modèle européen d'avenir. Et ce qui a changé complètement le rapport à ce moment-là des citoyens à l'Europe, c'est dans les années 80, l'Europe est devenue un horizon de substitution. Dans les années 80, il y a eu un sentiment de faiblesse accentuée des pays européens, puissance moyenne, et ils ont vu, notamment la France, dans l'Europe, une capacité de projection supplémentaire. Donc l'Europe était le moyen de retrouver, au moins imaginairement, en tout cas à cette époque, était le moyen de retrouver une dimension de puissance qui est en train de se perdre. Et surtout, l'Europe est devenue l'horizon de substitution du réformisme social dans bien des pays. Je crois que c'est particulièrement manifeste en France. Le discours européen a commencé à être lancinant et a commencé à être central au milieu des années 80 dans la bouche du président de la République, François Mitterrand. C'est lui qui, à ce moment-là, a dit « l'Europe est notre avenir ». L'Europe, au fond, était chargée de faire tout ce qu'on s'avérait ou tout ce qu'on s'avouait incapable de faire. L'Europe était le nouveau nom que l'on donnait à la régulation économique et l'Europe maîtrisée. Et l'Europe était le nouveau nom que l'on donnait à la construction d'un modèle social. Et c'est la découverte que l'Europe n'était pas du tout ça, en fait, mais qui a provoqué les réactions que l'on connaît au traité de Maastricht, notamment. Ça n'est pas la ligne même du traité, comme ensuite le vote sur la Constitution qui était en cause, mais c'était l'écart qu'il y avait entre l'investissement sémantique dans le projet européen et la réalité de ce que restait l'Europe. Et ce décalage a produit la déception, l'euroscepticisme, si on veut, la déception des citoyens. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un fait tout de même qui, même aujourd'hui, après ce que Luc a dit sur les crises, reste fondamental. C'est que le budget européen n'a pas changé depuis le traité de Rome. Depuis le traité de Rome, le budget européen est resté à peu près de l'ordre de 1% du PIB européen, avec des petites variations. Et Luc disait tout à l'heure que quand il était plus jeune, l'Europe, c'était l'agriculture, les politiques régionales et Erasmus. Bien sûr, il y a un petit peu des choses nouvelles, mais si on regarde aujourd'hui, si on analyse encore aujourd'hui en termes budgétaires, on est toujours à peu près à 0,4% du PIB européen sur les politiques agricoles, à peu près à 0,4% du PIB européen sur les politiques régionales, et c'est véritablement ce qui est un peu redistributif, 0,2% sur le fonctionnement administratif, et 0,2% aux politiques scientifiques, Erasmus, etc. Ce qui était tout de même frappant, c'est de voir que dans tous les pays européens, l'investissement dans la chose publique et dans la chose commune a été radicalement transformé depuis le milieu des années 50. Ce que représentent les dépenses sociales, ce que représentent les dépenses publiques, a plus que doublé en pourcentage du PIB entre les années 50 et aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas en Europe. Et donc, il y a une espèce de vérité des chiffres aussi qu'il faut avoir en tête. C'est alors que dans chacun des États-nations européens, plus ou moins, bien sûr, c'est un petit peu différent, mais disons, les prélèvements obligatoires représentent 50% du PIB. Le budget européen ne représente que 1% du PIB. Et ça, c'est une chose qui est un chiffre qui est donné, mais est un chiffre dont il est remarquable de constater que s'il y a un consensus absolu entre les pays européens, c'est pour que ce chiffre n'augmente pas. Et n'augmente pas de façon significative. Toutes les idées de faire des modalités d'impôts européens pour développer un sentiment un peu plus fort d'appartenance, jusqu'à maintenant, ont tout à fait échoué. Donc, quand on parle de l'Europe, il faut bien avoir en tête ces trois choses-là. La nature d'un espace qui a d'abord regardé dans le rétroviseur pour que l'avenir ne ressemble pas au passé. Un espace dans lequel la méthode était celle des petits pas, surtout pour ne pas prononcer des mots trop importants. Alors, il est vrai, comme le disait Luc, que le mot, par exemple, gouvernance fait moins peur que le mot gouvernement, et son livre est très intéressant à ce sujet. Mais troisièmement, une espèce d'espace de substitution des incapacités nationales qui s'est révélé un échec. Donc ça, c'est, je dirais, les trois points un peu sur la nature de l'Europe qu'il me semble nécessaire d'avoir en tête quand on en parle. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, je vais faire une réflexion tout à l'heure sur l'Europe comme une sorte de laboratoire cosmopolitique. Et le chiffre de 1%, là, aura un sens, j'y reviendrai. Deuxième série de réflexions, c'est l'Europe comme modèle politique. L'Europe comme modèle politique, je crois qu'on peut la définir très simplement comme celui d'une démocratie de régulation et non pas d'une démocratie d'institution. Au fond, quelles ont été les deux grandes actions qui ont été des succès de l'Europe ? C'est de défendre l'individu et de défendre le consommateur. De défendre l'individu avec un espace de droit qui fonctionne là remarquablement, disons, avec les cours de justice, et puis un espace de défense du consommateur à travers la régulation du marché, les politiques concurrentielles, et l'ensemble des politiques antitrust, etc. Sur ces deux plans, l'Europe a magnifiquement réussi. Mais essayons d'analyser intellectuellement ces deux domaines. Ces deux domaines, ils sont caractéristiques de formes de ce qu'on pourrait appeler une impersonnalité, un pouvoir de l'impersonnalité, celui du droit et celui du marché. L'Europe a réussi, en quelque sorte, à faire renaître ce qu'étaient les grandes utopies du XVIIIe siècle, un monde débarrassé de la politique, dans lequel ce serait le pouvoir de l'impersonnalité, ô combien rassurant, parce qu'à cette époque, on se méfiait de la personnalisation du pouvoir représenté par les despotes, ce pouvoir impersonnel du droit et du marché. Alors que ce qui est intéressant de voir, c'est que l'histoire de chaque pays européen, c'était justement la distance prise avec le modèle de l'impersonnalité. Le modèle de l'impersonnalité qui était intellectuellement aussi le modèle lié à une certaine vision du parlementarisme, ce modèle du pouvoir de l'impersonnalité comme pouvoir démocratique désirable, eh bien, il a peu à peu cédé la place à des formes de personnalisation plus grande des démocraties, ce qu'on appelait la présidentialisation. Et l'Europe est restée, elle. Alors, c'est là qu'il faudra venir à discuter ce qui s'est passé dans la crise. Est-ce que c'est vraiment une rupture ou pas? Mais en tout cas, l'Europe est restée jusqu'à présent représentative, justement, de ce modèle ancien qu'on peut appeler un modèle de la démocratie de régulation. En tout cas, j'emploie ce mot comme ça sans aller plus loin. Et effectivement, le terme de gouvernance, avec ce qu'il signifie quant à la pluralité des acteurs, quant au mode de production normatif, quant aux conditions de prise de la décision, ces trois éléments qui définissent le terme de gouvernance classiquement, effectivement, s'appliquent assez bien à l'Europe. Alors, alors que j'appelle démocratie d'institution, une démocratie de production du social, disons, d'une manière ou d'une autre, pour dire les choses rapidement. Si l'Europe est une démocratie de régulation et pas une démocratie d'institution, a été, alors disons jusqu'à la crise, on laisse les choses comme ça, une démocratie de régulation et pas d'institution, fondée sur la défense de l'individu et celle du consommateur, avec les succès dans ces deux domaines absolument remarquables, la question est de savoir comment on peut qualifier ce modèle. Est-ce que ce modèle, c'est celui d'une sorte... On a dit traditionnellement que l'État-nation était une sorte d'expérimentation limitée de l'universel. C'était la définition de l'État-nation qu'on a donnée à partir du XIVe siècle. Quand on ne peut pas faire l'Empire, on fait un universel limité, l'empereur, le roi est empereur en son royaume. Bon, c'est ça l'idée, je dirais, matricielle de l'État-nation. On pourrait se demander si l'Europe n'a pas été la même chose au niveau d'une politique cosmopolitique, si l'Europe n'a pas été un espace d'expérimentation réduite d'un cosmopolitisme réussi. Parce que ce qu'on peut attendre du cosmopolitisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement des tribunaux internationaux, c'est de la régulation qui marcherait avec l'OMC, avec le FMI, avec des choses comme ça. Et donc, là, l'Europe, de fait, peut être compris comme un espace réduit de cette idée d'une démocratie, enfin d'une organisation cosmopolitique. Avec d'ailleurs le parallèle, là c'est là que reviennent les 1%. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, les politiques, si on ajoute les dépenses de maintien de l'ordre au niveau international telles que les pratiques de l'ONU, les dépenses de coopération, les dépenses d'aide médicale pour lutter contre les famines, etc., on arrive aussi au chiffre de 1%. C'est-à-dire que là aussi, on a ce chiffre de 1% qui représente en quelque sorte, quand on est en dehors du modèle de l'État-nation, qui représente au fond l'horizon de la mise en commun des nations aujourd'hui. C'est le chiffre réel. Alors, ces quelques remarques rapides étant faites, le problème est de savoir s'il y a eu rupture ou pas dans la crise récente. C'est ça qui peut être le sujet essentiel. Tout en disant d'abord une chose, c'est que le rapport des Européens à l'Europe est vraiment marqué par un défaut de lisibilité. C'est-à-dire qu'il y a un écart tellement énorme entre le discours politique sur l'Europe et la réalité du fonctionnement des institutions européennes qu'il y a une façon de générer en permanence, je dirais, de la déception ou le sentiment d'un complot permanent. Et les discours les moins raisonnables sur l'Europe sont en partie, me semble-t-il, liées à ce déficit de visibilité. Et c'est pour cela que j'avais été content de publier ce livre d'Antoine Vaucher, « Démocratiser l'Europe », qui était un livre qui mettait l'accent, justement, sur qui analysait ce décalage et faisait du déficit de lisibilité de l'Europe, en quelque sorte, la matrice du désenchantement des citoyens européens. Alors, est-ce qu'il y a eu rupture de ce modèle, de cette nature de l'Europe avec la crise récente? Il est vrai que si l'on regarde, par exemple, en termes là, financiers, il y a eu tout d'un coup la possibilité de mobiliser des sommes d'argent sans commune mesure avec ce qu'était le budget européen. Tout d'un coup, il y a eu un dépassement considérable. Mais ce dépassement est-il vraiment un dépassement des institutions politiques européennes ou la consécration, ce qui est très différent, la consécration de la Banque centrale européenne? Car la Banque centrale européenne fait partie de ces institutions indépendantes qui sont le cœur de l'Europe. L'Europe, ce sont des institutions indépendantes, pour faire vite. Hein, c'est la Banque centrale, c'est des éléments de droit du consommateur, c'est les tribunaux internationaux. Alors que chez nous, enfin, dans les États-nations, les institutions indépendantes ont leur domaine d'action, mais qu'il y a à côté, je dirais, le gouvernement politique. Là, la place du gouvernement politique, y compris à l'intérieur de la crise de l'euro, me semble peut-être moins forte qu'il y paraît, parce que je crois que c'est très différent vis-à-vis de l'Ukraine. Mais là, le rôle central a tout de même été celui de la Banque centrale européenne. Donc là, au moins, il y a un point de discussion. Et une réponse à la crise se traduit-elle par des changements d'institution? C'est ça mon interrogation. Je vois bien comment la crise de l'euro a appelé des mesures de sauvetage inédites. Et là, il faut donc bien discuter entre les mesures de sauvetage via la BCE et la vraiment prise de pouvoir de la BCE et, disons, le Conseil des chefs d'État, d'une part. Et d'autre part, est-ce qu'il y a eu une création institutionnelle? Le propre de bien des crises, c'est que les crises non seulement déclenchent des moyens de sauvetage et de réaction immédiat dans le sens de l'urgence, mais que ces crises génèrent la naissance d'institutions ou le développement d'institutions. Là, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas. Je suis très sensible à tout ce que Luc a dit, et lui, il est aux avant-postes, donc je crois a priori tout ce qu'il dit. Mais je ne vois pas quelles sont les institutions qui sont nées de cette crise. Et même, je vois une chose qui m'a plutôt inquiété, c'est ce qu'a révélé cette crise. Là, je parle de l'euro, parce que ça n'est pas la même chose, la crise de l'euro, la crise de l'Ukraine, parce que tout le monde est concerné par la crise de l'Ukraine, alors que l'euro, il n'y a que les pays qui ont l'euro qui sont concernés. Ce qui est caractéristique de la crise de l'euro, c'est qu'alors même qu'il y a eu beaucoup d'appels, je me souviens même en avoir écrit et signé un avec des économistes français, pour qu'il y ait des institutions politiques correspondant à la gestion de l'euro, n'a pas été du tout suivi d'effet. Donc, à cet égard, je suis très interrogatif et il me semble que la crise de l'euro aurait pu, ou aurait dû, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, mais aurait pu déboucher en tout cas sur le fait d'institutionnaliser le fait qu'il y ait deux Europes. Il y a l'Europe de l'euro et l'Europe territoire juridique, territoire du consommateur, parce qu'effectivement, ce qui est en jeu au niveau des solidarités n'est pas du tout la même chose. Et ce que je redouterais par-dessus tout, c'est qu'on fasse vis-à-vis de l'euro ce qu'on a fait pour l'élargissement. C'est en faisant en quelque sorte de l'euro un sentiment d'appartenance et pas... tout de même que ça ait une contrepartie en termes de devoirs que cela implique, et notamment de devoirs d'implication en termes de solidarité, de budget. On voit à quel point il est possible, enfin, il y a des négociations sans fin pour négocier sur les déficits publics de chaque pays qui sont, il y a des éléments de discipline qui se mettent en place, mais ils sont tout de même assez précaires et ils procèdent d'une sorte d'arrangement et non pas du tout d'un développement, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler l'intégration des économies. On est très loin de cette intégration des économies. Donc, on peut toujours réécrire l'histoire, mais en tout cas, il est certain que l'Europe avait besoin de solder les comptes de son histoire, dans ces différentes dimensions des dictatures, du communisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant, on est véritablement au milieu du gué pour savoir s'il est désiré, je n'ai même pas souhaitable, s'il est désiré que l'Europe soit autre chose qu'une démocratie de régulation, étant bien entendu à ce moment que même à ce niveau d'une démocratie de régulation, il faudrait distinguer les deux espaces européens. Et puis, pourrait-elle devenir, en tout cas pour certains éléments, une démocratie d'institution? Je suis sur ce point relativement sceptique. Je vois que l'Europe, au fond, a une vertu négative très forte. C'est-à-dire, la vertu négative, c'est une façon de contenir dans chacun des pays un certain nombre de débordements. Mais que se passera-t-il? Que pourra faire l'Europe le jour où des partis populistes montent en puissance? On le voit bien dans l'exemple de la Hongrie. L'Europe a été relativement impuissante, a bien sûr fait quelques remarques, mais impuissante devant cette montée du populisme et du pouvoir pris par Orban en Hongrie. Donc voilà mes interrogations qui viennent peut-être modérer le sens, la description de la rupture que Luc a fait. En tout cas, il faut d'abord savoir si on est bien d'accord sur l'interprétation, je dirais, pré-crise de l'Europe, et ensuite voir comment on peut analyser là où peut aboutir les éléments de rupture qui ont eu lieu après ces deux crises, la crise ukrainienne et la crise de l'Europe. Voilà les quelques remarques que je voulais faire, mais je l'ai fait en une sorte d'amateur lointain, alors que Luc est un acteur direct, donc il peut beaucoup plus apporter que moi dans la discussion, certainement.
Merci beaucoup. Luc Vamidelard va déjà répondre à Pierre Rossanvallon, puis ensuite vous aborderez vos propres questions. Je garde les miennes si elles n'ont pas été couvertes éventuellement pour la fin. Non, je vous en prie.
Merci Pierre de ces éclaircissements et interrogations sur le sens à donner aussi au dernier développement. En fait, je me rends compte qu'il est dommage que vous n'y ayez pas parlé premier et moi après. Parce que comme ça, on aurait pu d'abord établir la continuité et ensuite mettre l'accent pour le changement. Parce que moi, pour votre question de fond que vous avez formulée de plusieurs façons, mais est-ce que nous sommes maintenant en train de vivre une rupture, oui ou non? Et on peut dire démocratie de régulation versus démocratie d'institution, on peut dire gouvernance et gouvernement, ou on peut employer d'autres dichotomies, mais ça revient à chaque fois plus ou moins au même. Je crois que l'Europe à l'ancienne, hein, ça continue tous les jours. L'Europe qui produit des règles, quand je regarde le bâtiment où je travaille encore 2 mois, il y a des dizaines de groupes de fonctionnaires nationaux qui arrivent tous les matins de 28 pays pour discuter de telle ou telle directive. Et ensuite, ça passe aux ambassadeurs, aux ministres, etc. Ça continue. Et moi, j'ai voulu mettre l'accent sur ce qui est nouveau. Non pas parce que ça remplacerait en tant que tel tout ce qui existe, mais parce que ça s'y ajoute. Et je crois que quand même que quelque chose s'y ajoute, mal sans doute, et par la force des choses, et surtout à cause de l'euro. C'est-à-dire, justement, ce que j'essaie de décrire et de capter, ce sentiment qu'on ne peut pas uniquement travailler avec, avec des règles imposées de Bruxelles, mais qu'il faut une implication de tous les acteurs nationaux, gouvernements, dirigeants, parlements nationaux, etc. Et donc là, ça, c'est pas une vraie rupture, mais je crois qu'il y a quand même... Moi, j'étais aussi déjà à Bruxelles il y a 12 ans, donc je peux quand même un peu comparer. Je sens une nouvelle conscience d'un vivre ensemble qui n'était pas présent, mettons, au début des années 2000. Pour la question des changements institutionnels suite à la crise, je crois qu'il y en a quand même eu un certain nombre qui sont peut-être pas aussi significatifs que vous l'auriez espéré, mais qui sont quand même bien là. D'abord, pour ce qui est du sauvetage de la Grèce et tous les montants extraordinaires qui ont été mis sur la table, ce n'était pas dans un premier temps la Banque Centrale Européenne, c'était bien les trésors nationaux des pays de la zone euro qui ont mis sur table 500 milliards d'euros. Donc ça, c'est les contribuables français, allemands et autres, slovaques, qui étaient plus pauvres que les Grecs, qui ont assumé, mobilisé cette somme, qui en effet est la moitié du budget européen sur 7 ans, dont vous avez parlé. Et cette somme, elle est maintenant aussi gérée par une nouvelle institution qui s'appelle dans les acronymes du lieu, en français, le MSE, le Mécanisme de Stabilité Européen, mais qu'on peut, avec plus ou moins de raison, appeler un FMI européen qui gère cet argent. Qui est destiné donc à aider des pays en difficulté à l'avenir. Et c'est avec cet argent que la Grèce, après des mesures d'improvisation au printemps, que la Grèce a été aidée et dont ont dépendu aussi un moment l'Irlande et le Portugal. Donc FMI européen, c'est quand même un résultat institutionnel de la crise. Pour ce qui est de l'institutionnalisation de la zone euro, ça, c'est vrai que c'est une affaire plus compliquée. Mais là aussi, il y a quand même eu des changements. Il y a désormais, c'est désormais acquis, qu'il y a des sommets euro. En fait, le président Sarkozy, quand il était président en exercice du Conseil européen en 2008, a forcé la main, une première fois, à réunir tous les dirigeants de la zone euro. Contre la résistance allemande à l'époque, c'était en octobre 2008, en plein crise bancaire suite à l'affaire Lehman. Ça a constitué un précédent et Herman Van Rompuy a poussé la logique en 2010 et maintenant c'est aussi écrit pas dans le traité, mais dans la législation secondaire qui a cette réunion au moins une fois par an, etc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraintes. Ceux qui sont inquiets d'avoir des réunions où tous ne sont pas, hein, donc, et notamment ceux qui n'y sont pas encore. Bien sûr, il y a toujours le cas du Royaume-Uni qui veut uniquement le marché, qui ne veut pas la monnaie. Puis il y a un petit peu le Danemark, c'est déjà plus ambigu, la Suède. Mais sinon, tous les autres membres de l'Union européenne qui ne sont pas encore dans l'euro veulent quand même y être un jour. Donc eux, ils craignent que des décisions soient prises aussi concernant, non pas uniquement des mesures immédiates, mais mettons quant à la forme, les institutions de la zone euro où ils ne sont pas présents. Donc il y a beaucoup de résistance, encore une fois des pays hors zone euro, mais aussi des autres institutions, parce que la Commission, elle panique. Alors est-ce qu'il faut faire une commission spéciale pour la zone euro? Le Parlement se voit aussi dessaisi. Donc, bon, bien sûr, on peut essayer d'être créatif, mais il y a, face à ce désir que vous exprimez et que je comprends, parce que l'euro, c'est quand même plus qu'un petit pas, c'est vraiment un saut, on a du mal à trouver les institutions qui correspondent, et du coup, on est un peu dans, voilà, encore dans des petits pas, dans l'improvisation, mais avec, avec cela. Pour la gestion de la crise, il y a bien sûr aussi beaucoup de règles qui ont changé. Hein, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, aussi dans votre pays, mais dans d'autres pays aussi, l'Italie, la Belgique, les nouvelles règles budgétaires, la discipline. Mais bon, là, on est toujours dans le régime régulateur et pas dans quelque chose de plus institutionnel. Je crois que la raison de fond pour laquelle la plupart des dirigeants ont voulu éviter d'ouvrir un débat institutionnel, c'est que beaucoup d'entre eux ont des très mauvais souvenirs de toute la décennie 2000 et le grand débat autour de la constitution de Giscard, je vais dire ici, le traité constitutionnel de 2005, ça a été un trauma ici, d'ailleurs aussi au sein du Parti socialiste, et le président de la République s'en souvient très bien, parce qu'à l'époque, il avait géré ses camarades entre ceux qui étaient pour lui et ceux qui étaient pour le non, et sans doute, le président de la République n'a pas envie de répéter ça. De même, dans mon pays aussi, la Hollande, qui à l'époque était l'autre pays du non, et pas du fromage pour une fois, trois jours après votre nom. Et donc, cette expérience entre 2001, 2002 et finalement l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, ça a été un long calvaire. Et personne n'a envie de répéter ça en pleine crise économique, d'ajouter une crise institutionnelle à une crise économique. On le voit aussi parce qu'on a tous peur d'ouvrir d'autres débats dont on n'a pas envie. Et aussi d'ouvrir grand la porte pour le Royaume-Uni, pour, dans un grand exercice institutionnel, de venir avec ses propres demandes et de prendre les autres en otage pour imposer ses vues avec la menace, même plus implicite, de sinon quitter l'Union européenne. Donc c'est le spectre de ce qu'on appelle le Brexit, la sortie de la Grèce, qui pèse aussi sur ce débat institutionnel. Donc vous voyez, il y a d'un côté la crise avec ce qu'elle donne comme peut-être comme envie et besoin de changer les institutions. De l'autre côté, il y a toutes ces contraintes et résistances de part et d'autre. Oui.
Rapidement, puisque vous en avez été acteur, c'est que la grande transformation de ces cinq dernières années, c'est le recul de la Commission et la montée en puissance du Conseil. Toutes les choses importantes ont été faites au niveau du Conseil, et la Commission Barroso, par rapport à la Commission Delors, a été beaucoup plus passe-muraille, a eu beaucoup moins d'importance, je dirais, dans le fonctionnement des institutions, et que ça, c'est quelque chose qu'il faut interpréter. C'est tout de même que les institutions propres, je dirais, de l'Europe ont reculé en centralité.
Oui, là, j'aurais un autre point de vue, et c'est pas par diplomatie intra-bruxelloise pour président Barroso, mais je pense que ce basculement, ce n'est pas une affaire de personne, mais c'est justement une affaire du changement que je décris. C'est-à-dire que la politique européenne est de plus en plus devenue une affaire nationale. C'est-à-dire les enjeux dont on traite ensemble ne sont plus aussi loin qu'avant, ne relèvent plus uniquement de la régulation du marché, mais vraiment de la vie économique, du budget, des déficits, etc. Donc, c'est des sujets auxquels s'intéressent les présidents et premiers ministres, parce que pour beaucoup d'entre eux, surtout dans la crise, la survie de leur gouvernement même était en jeu pour prendre telle ou telle décision. C'était vrai pour les pays sous pression, comme la Grèce, l'Irlande, le Portugal, mais aussi pour les pays qui devaient apporter beaucoup d'argent de la part de leurs contribuables, que les présidents et premiers ministres qui se réunissent au sein du Conseil européen ne voulaient pas laisser cette affaire soit à la Commission, ce n'était pas possible parce qu'il n'y a pas le budget, ni même à leur ministre des Finances. Mais ils sentaient que c'était tellement important qu'ils devaient eux-mêmes assumer la responsabilité. Donc c'est juste pour moi un résultat indirect de la plus grande importance que révèle la chose importante européenne, que ça atterrit à la table des chefs d'État et des gouvernements. Et je connais la critique de ceux comme d'ailleurs Jacques Delors a été très vocal, si on dit ça en français, à cet égard aussi. En regardant ça, surtout au début de la crise, voilà, le Sarkozy qui s'en occupait au lieu de Barroso, etc. Delors et d'autres, Habermas aussi d'ailleurs, ils ont parlé d'une renationalisation de la politique européenne. Et le spectre des années 30 n'était jamais très loin quand ils disaient cela. Pour moi, c'est une fausse analyse. Moi, ce que je vois à l'œuvre, c'est le contraire. C'est une européanisation de la politique nationale. Et le fait que l'Europe, les sujets européens, encore une fois, sont maintenant traités plus souvent qu'avant par l'Élysée et la chancellerie, etc., que uniquement dans quelques bureaux à Bruxelles, c'est un signe de maturation politique, de maturité politique. Parce que l'Europe, encore une fois, c'est tout le sens de mon propos, ça ne peut être construit contre les États, ça ne peut l'être qu'en les impliquant, même les imprégnant, je ne sais pas comment dire. Et donc c'est plutôt de la maturation. Mais bien sûr, maturation douloureuse. Hein. Peut-être juste un mot là-dessus, parce que je suis bien conscient qu'on râle hein, et que ce n'est pas une histoire très gaie. Et que si les dirigeants ont découvert, et ça je m'en souviens, ils ont découvert à leur surprise, même à leur stupéfaction, que voilà, un de leurs... Ils sont réunis autour d'une table d'habitude ovale à 28, 30, avec Barroso. Parlons pas, ça fait 30. Voilà, si la Grèce fait faillite, ça nous tombe dessus, à nous tous collectivement. C'était une découverte désagréable, même pour les dirigeants. Je peux parler du Premier ministre néerlandais, hein, par exemple. Et moi, je trouve alors pas étrange que... Pour les opinions publiques, ça prend aussi un petit peu de temps pour digérer cette découverte d'interdépendance, si même pour les élites politiques, ça a été difficile. Et je suis très conscient du désenchantement vis-à-vis de l'Europe qu'il y a aussi en France. Et je crois que, juste pour conclure là-dessus, Marie-Hélène, si vous permettez, ça... Ce désenchantement est en partie lié aussi à la distinction que vous avez faite, Pierre, entre démocratie de régulation et démocratie d'institution. C'est-à-dire, si on regarde, comme vous le faites, si on fait un peu de... Si on prend du recul, on voit que l'Europe s'est toujours construite comme espace de liberté et de régulation, en effet, de... Un espace qui permet, non pas uniquement aux produits et aux capitaux, mais aussi aux personnes de circuler. C'est une affaire de liberté, d'opportunité, le marché, etc. Donc, et bien sûr, ce mouvement, pour les uns, ça peut être vécu comme une menace par d'autres, comme la concurrence économique, ça en est l'essence même, mais ça marchait plutôt bien tant que... Tous nos pays étaient en croissance continue, et tant qu'aussi les États-providence fonctionnaient pour absorber les chocs de l'ouverture du marché, etc. Et tout, donc il y avait une espèce de division du travail, je crois que c'est ça le mot-clé, entre l'Europe qui ouvrait et les États-nations qui protégeaient à travers des États-providence. Et c'est cette division du travail qui est maintenant sous pression, du fait de la mondialisation aussi, mais aussi du fait de la crise. Et alors, maintenant, les demandes vis-à-vis de l'Europe sont un peu contradictoires aussi. Hein. Donc, il y en a qui veulent que l'Europe soit moins intrusive, se, retournent chez elles, en quelque sorte, même si Bruxelles, c'est nous. Et puis d'autres qui veulent plus d'Europe maintenant, que l'Europe soit aussi plus sociale, etc. Et là, il y a une vraie tension qu'on ne peut pas couvrir, je dirais, sémantiquement, mais qui est vraiment politique. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on voudrait que l'Union européenne assume plus de rôle pour aussi pouvoir protéger? Vous appelez ça aussi instituer du social, c'est en partie lié. Hein. Ou est-ce qu'il faudrait qu'elle revienne sur ses terrains de chasse d'origine et laisse le terrain aux États-nations comme elle a fait avant pour la protection? Et ça, bien sûr, c'est un débat théorique, mais qui sera tranché aussi dans la pratique, mais qui, à mon avis, explique pour beaucoup le désenchantement profond. Parce que la promesse européenne ne tient plus, en quelque sorte, mais il n'y a encore rien à la place. Et là, je suis d'accord avec vous qu'on est un peu entre les deux.
Merci. Oui, Monsieur Rossovallon doit nous quitter bientôt. Donc je pense qu'il serait bon que vous posiez vos questions, si vous en avez. Il y a un micro qui va circuler. Alors, ah oui. Madame.
Oui. Bonjour. Donc, je suis Antoine Vaucher, que Pierre Rosemont-Vallon a bien voulu tout à l'heure citer. Vous avez bien voulu citer l'ouvrage. Et donc, je voulais revenir un peu sur l'interprétation de la crise. Comme le disait Luc Van Videlaere, je suis tout à fait d'accord qu'elle a révélé la portée politique de ces constructions économiques européennes. Et je pense, de cette manière, vous le disiez d'ailleurs, elle l'a révélé aux yeux des chefs d'État pratiquement d'abord et avant tout, c'est-à-dire voir que pour Vladimir Poutine, la construction d'un marché unique entre l'Ukraine et l'Union européenne, c'était un enjeu politique et géopolitique considérable pour la région. C'était une façon de révéler que ces constructions économiques avaient une portée politique. De la même manière que effectivement, vous le citiez, Mme Merkel se rend compte effectivement que l'enjeu de la Grèce n'est effectivement pas seulement celui de l'euro, mais plus largement de la construction politique de l'Europe. Mais là où je suis davantage dans le sens de ce que disait Pierre Rosanvallon, c'est que finalement, paradoxalement, ce moment politique s'est soldé par une reprise d'un modèle politique bien établi, d'une façon de construire du commun, de construire du pouvoir politique, qui finalement le fait en plaçant des institutions comme en l'occurrence on l'a dit la Banque centrale ou la Commission en dehors des circuits de la légitimité électorale, en les positionnant justement en indépendance, en situation d'indépendance, et que du coup finalement cette crise a davantage creusé le sillon institutionnel du modèle politique et institutionnel européen. Si on voit finalement que la Commission européenne sort renforcée en réalité tout de même de cette crise avec ses nouveaux pouvoirs en termes de semestre européen et de contrôle des budgets, ou encore quand on pense à l'union bancaire qui a été rattachée à la Banque centrale, c'est-à-dire quand même un contrôle de capacité de vie et de mort en quelque sorte sur les banques européennes, ce qui est quand même quelque chose de considérable. Donc je me demande si ça ne doit pas nous faire réfléchir peut-être davantage à cette pente structurale de l'Union européenne qui est justement cette forme de dépolitisation et de délégation à des institutions indépendantes. Et d'une certaine manière, oui, on a bien eu conscience dans cette crise de forme d'indépendance, mais ce qui est intéressant, c'est que les voies de cet espace public que vous avez évoqué, finalement, il fonctionne autour d'institutions, là aussi, qui sont plus peut-être des institutions, des voies de recours, de la manière de la cour de Karlsruhe, de la cour constitutionnelle portugaise, que véritablement des formes de politisation. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que les institutions qui ont été les plus efficaces pour contrôler ce qui se passait à Bruxelles, au sens large, eh bien, précisément été ces institutions extérieures aux jeux politiques, qui sont les institutions cours constitutionnelles ou Banque centrale nationale également. Voilà. J'en arrête là. Merci.
Moi, j'essaierai d'être un petit peu plus courte. Je vais reposer la question à M. Rosanvallon. Je viens d'un pays, quand vous avez parlé, de la construction européenne tout au début. Vous avez dit que c'était pour une question de paix ou autre. Mais moi, j'essaie de me rappeler aussi ce qu'il y avait, c'est que c'était une forte coloration politique, en ce sens qu'à cette époque-là, il y avait le monde qui était partagé entre les États-Unis et le bloc soviétique, et que les pères de l'Europe, je pense à Paul-Henri Spaak, qui martelait « Nous avons peur », voulait absolument cette formation politique afin de se mettre à l'abri du monde soviétique. Et en 1989, avec l'effondrement, nous nous sommes retrouvés un petit peu devant un vide politique. Et je crois que M. Van Middelaar le montre très bien, parce que qu'est-ce que nous étions ? Donc, cette coloration politique, en fait, de force politique, à mon sens, n'a jamais été secondaire en Europe.
On va peut-être laisser répondre M. Rossin-Vallon, puisque vous devez nous quitter. Merci.
Oui, effectivement, on ne peut pas dire que c'était uniquement les questions économiques, mais si on a fait l'Europe des six, si vraiment la question avait été celle de la sécurité européenne avant tout, à ce moment-là, il n'y avait pas de raison de se limiter à l'Europe des six. Je crois qu'il y a eu une dimension de cohérence politico-économique qui a fait qu'on ait choisi les six et qu'on n'ait pas pensé du tout, par exemple, au début, à l'extension vers les pays scandinaves, ce qui aurait pu être, alors qu'ils ne sont venus vraiment que dans une deuxième étape, alors que dans une perspective de sécurité européenne, il jouait un rôle extrêmement important, ayant une frontière avec la Russie. Enfin, n'étant pas aussi expert que beaucoup de personnes dans cette salle, sûrement, sur l'histoire européenne, je me limiterai à faire cette remarque de lecteur, n'ayant pas moi-même fait des recherches approfondies sur le sujet.
Merci. Merci, bonjour. Je suis étudiant en études politiques. J'ai une question surtout à Luc Van Middelaar sur la relation entre ce qui est économique et ce qui est politique. Hier, dans la même salle, on était avec Marcel Gauchet et peut-être ce n'est pas une surprise que lui, il a évoqué une vision assez différente de l'Europe aujourd'hui. Pour Gauchet, l'Europe est devenue un projet post-politique. Il y a un libéralisme économique qui règne, qui empêche en fait la politique pour avoir sa voix. Donc ce qui arrive maintenant en Europe, selon Gauchet, mais aussi selon moi, c'est on voit dans la rue l'émergence de nouvelles politiques qui nous inquiètent lorsque à Bruxelles ou à Strasbourg, on a une administration assez technocrate sur des aspects politiques. Donc, ma question serait, quelle exactement est votre vision sur la relation, ce qui est économique et ce qui est politique ? Parce que pour Gaucher, l'Europe est rattrapée par la politique.
Oui, Jean-Vincent Olyndre. Merci à tous les deux pour ces deux beaux exposés. Je partage l'idée de Luc selon laquelle effectivement les moments de crise sont des moments de création politique et en même temps je partage les interrogations de Pierre Rosanvallon sur la faiblesse politique de l'Europe, donc je suis un petit peu au milieu du guet comme l'Europe d'ailleurs, et je voudrais peut-être poser une question à propos de la faiblesse politique de l'Europe sur les questions internationales. Sur l'Ukraine, j'ai le sentiment que cette crise, disons, oblige en quelque sorte politiquement l'Europe, mais elle est en même temps une source de division très forte au sein même des États-nations concernés. On voit par exemple qu'en France, le parti pro-russe va bien au-delà du Front National que tu as évoqué, et donc tout ça peut créer des tensions très fortes au sein même des États-nations, et du même coup, ça pourrait se répercuter au niveau européen. Et donc, est-ce que l'Europe est en mesure, sur les questions internationales, sur cette question-là, d'avoir une voix qui porte véritablement et une voix, si j'ose dire, homogène ? Et on l'a vu également sur les crises internationales de manière générale. C'est-à-dire, tu n'as pas évoqué ça dans ton exposé, mais on se souvient qu'au moment de la crise irakienne, enfin de l'intervention en Irak, les pays européens, les États-nations européens étaient divisés entre une Europe disons, à l'Est qui était plutôt aligné sur l'OTAN, et puis la France qui avait cette position très critique vis-à-vis de l'intervention. Donc, tu parlais du fait que l'Europe, c'était pas simplement les normes, mais c'était aussi la force. En matière d'usage de la force, j'ai le sentiment que, on parle par exemple beaucoup des battle groups européens, le fait qu'on pourrait constituer des unités combattantes, disons, multinationales au niveau européen, pour le moment, c'est un vœu pieux, et ça a beaucoup de mal à se mettre en place, hormis quelques opérations en Afrique. Donc, ma question, c'est, voilà... J'ai le sentiment que, est-ce que l'Europe est véritablement, forte politiquement, au sens où elle pourrait se défendre dans l'hypothèse, d'une aggravation de la crise ukrainienne ou dans l'hypothèse d'une nouvelle crise internationale comparable à celle de l'Irak.
Merci beaucoup, Monsieur Vincent Val. Maintenant, vous avez la charge de toutes les réponses.
Pardon ?
Vous avez la charge de toutes les réponses.
Oui. Non, mais avec plaisir. Je commencerai avec la question d'Antoine Vauchès sur, au fond, est-ce qu'à travers les mesures de crise et les innovations institutionnelles, on n'a pas plutôt dépolitisé davantage l'Europe ? Je ne partage pas tout à fait cet avis. Je crois qu'il y a, au sein des discussions aussi sur les budgets, il y a maintenant, bon, je parle peut-être d'une prise de conscience de cette interdépendance. Il y a maintenant des discussions entre les ministres des Finances sur les uns et les autres, qui sont plus vifs, plus vrais et plus francs qu'avant, et où ça peut aller dans le sens de ce que propose la Commission ou dans l'autre sens, mais il y a vraiment cette prise de conscience de cette responsabilité commune pour le sort de chacun. Pour la Banque Centrale Européenne, on peut dire... Si la Banque Centrale Européenne a plus de pouvoir, alors il y a moins de pouvoir pour le politique. Mais on peut aussi dire, si la Banque Centrale Européenne a ce pouvoir, c'est mieux que si la Bundesbank a ce pouvoir. Parce qu'au moins, c'est un pouvoir européen. Et donc, il faut voir à quoi on compare dans une telle chose. Et ce n'est pas anodin ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, dans les mesures de crise que la Banque Centrale Européenne est sur le point de lancer, notamment en faisant je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais le quantitative easing, le QE, tous les journaux financiers en sont pleins, il se peut que ça soit décidé contre les Allemands, puisqu'il y a le vote au sein du board de la Banque Centrale Européenne qui permettra de minoriser l'Allemagne, est quand même assez gros d'un point de vue politique. Et aussi, ça sera difficile à digérer pour l'opinion publique allemande. Par rapport à la supervision bancaire, je voudrais aussi apporter une nuance. Je crois que là, dans ce domaine-là, la dépolitisation, c'est plutôt une bonne idée. Hein. Le problème, justement, des pratiques anciennes, c'est qu'il y avait une entente trop intime, parfois, entre des autorités régionales ou urbaines et des investisseurs et des banques par rapport à certains projets immobiliers, etc. Ça donnait de grands problèmes en Espagne. Et c'est en partie responsable de l'éclatement de la crise de l'économie espagnole et aussi des problèmes en Allemagne. Donc là, de passer à un niveau supérieur, plus loin, justement, de tels arrangements entre gens qui se connaissent du club de foot local, c'est peut-être plutôt sain. Donc juste quelques nuances, on va approfondir la discussion sans doute plus tard. Et Pierre-Rosan Vallon m'a laissé votre ouvrage, donc je vais le lire. Par rapport à, oui, vous, madame, la question de la politique à l'origine, là, je partage tout à fait, mais Pierre-Rosan Vallon a déjà en partie répondu. Bien sûr, c'était très politique et c'était le danger communiste qui joue un rôle, même si, je crois que si je me souviens bien, quand... J'étais pas là à l'époque, hein, mais quand Paul-Henri Spaak a dit « Nous avons peur », c'était plutôt dans le contexte de la création de l'OTAN comme mécanisme de défense européenne, plutôt que par rapport à la naissante communauté du charbon et d'acier. Oui, je vous suis tout à fait là-dessus. Et aussi, pour la suite, ce qui est peut-être aussi c'est plus important et souvent toujours sous-estimé, c'est que la rupture que constitue à cet égard 1989 et la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, c'est à ce moment-là que l'Europe, qui s'était développée un peu sous le parapluie américain, s'est retrouvée seule aussi politiquement et a été obligée de s'émanciper en fait, de cette protection. C'est un processus qui est en route, mais géopolitiquement, ce fond géopolitique explique pour beaucoup aussi les changements institutionnels de ces 25 dernières années. Et ça se traduit dans le basculement de la communauté d'avant à une union qui est plus politique. Pour ce basculement, ce sera la dernière fois, mais je renvoie aussi à mon livre où je fais une analyse de ça. Alors, oui, vous ici, sur le rapport entre le politique et l'économique dans les décisions. Je veux dire, ça, c'est évidemment une vaste question. Il faut voir, si on part de la pratique de qu'est-ce que les dirigeants politiques de quoi il traite au jour le jour, de quoi traite le gouvernement français quand il se réunit toutes les semaines, de quoi traite le gouvernement allemand, espagnol, etc. C'est beaucoup des questions économiques. Et je veux dire, c'est pas toujours soit facile, soit même pertinent de séparer les deux domaines. Par ailleurs, je connais bien la pensée de Marcel Gauchet et j'aurai le plaisir cet après-midi de m'entretenir de ces questions avec lui. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. l'interrogation de Jean-Vincent sur Hollande, de la capacité européenne d'être un acteur de politique étrangère, mettons. C'est évidemment une interrogation que je comprends et que je partage, mais quand j'ai employé le mot force par rapport à la crise ukrainienne, c'était pas pour dire que nous en disposons, mais c'est que ça n'a plus de sens de nier qu'on exerce une force, ce que certains ont fait pendant très longtemps. C'est-à-dire non, les Russes jouent un jeu politique style 19e, nous on est dans le 21e siècle. Des normes et ça ne se fait plus comme ça. Ça a été tenable peut-être un petit bout de moment, mais à un moment donné, il faut aussi prendre acte d'une situation et dire si l'adversaire prend votre comportement comme un exercice de pouvoir, de force sur un territoire avoisinant, il faut assumer cela et être se montrer responsable de ces actes. Si nous, on a par exemple créé des attentes vis-à-vis de la population ukrainienne, on ne peut pas ensuite le nier. C'est de ça que je voulais parler. Je suis évidemment également très conscient des débats au sein des pays comme la France et l'Allemagne que j'ai cités aussi par rapport à la Russie. Une position européenne, ce n'est pas une position qui est inventée à Bruxelles. Une position européenne, surtout dans ces domaines, je ne parle pas de la régulation des produits, parce que là, on est dans un autre métier. Mais si on parle de la politique étrangère européenne, ça ne peut reposait pour moi. Alors là, une fois, peut-être plus encore pour d'autres sujets, je parle vraiment à mon nom propre, et c'est un peu hétérodoxe ce que je dis par rapport à ce qui s'y dit à Bruxelles, encore plus. Ça doit être les États qui sont impliqués. Je vais te donner peut-être un exemple concret et je vais terminer là-dessus. À un moment donné, le moment fort de la révolution à Kiev, en février de cette année, il y a eu un accord conclu entre le président Yanukovych, qui était encore au pouvoir, juste avant qu'il quitte, l'opposition de la place Maïdan, avec un observateur du président Poutine et trois ministres européens. Laurent Fabius, Steinmeier, le ministre allemand, et Sikorski, le ministre polonais. À Bruxelles, il y a des gens qui ont râlé pourquoi Catherine Ashton n'était pas là et pourquoi elle trouvait que c'était plus important de négocier un accord avec l'Iran sur le nucléaire. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est un peu puéril de raisonner comme ça. Pour moi, s'il y a trois ministres français, allemands et polonais, ils sont là perçus comme trois ministres européens. Et c'est très bien. D'autant plus qu'ils étaient accompagnés par l'ambassadeur de l'Union européenne à Kiev. Donc, qui, lui, mettons, avait vraiment une appartenance institutionnelle au sens strict. Et alors là, on est dans, pour ce qu'il faut pour la politique étrangère, dans des modes de fonctionnement et qui ne sont pas toujours soit européens au sens drapeau européen, rien d'autre, soit national au sens tricolore, etc., mais qui sont justement mixte productif qu'il faut avoir surtout dans ce domaine où, sans les États, l'Europe n'est rien.
Est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples, s'il vous plaît ? Vous avez parlé de consensus à un moment, mais alors qu'est-ce qui relève d'un vote à l'unanimité ? Qu'est-ce qui relève d'un vote à la majorité pour une prise de décision ? Et, voilà, quelle catégorie de décision ? Et par ailleurs, là, on a entendu à la radio et vu sur les journaux qu'il y aurait eu un prêt d'une banque tchéco-russe. Donc la Tchéquie, c'est bien en lien avec l'Union européenne. Alors qu'est-ce que la BCE et les autres institutions européennes ont à dire là-dessus ? Et alors est-ce que là, il y aurait pu y avoir ironiquement un recours pour obtenir un prêt d'une banque européenne plutôt que tchéco-russe ? Vous devez avoir
des infos. Vous parlez de l'affaire du Front National.
Ouais. Puisque officiellement, dans les journaux, c'est ce qui est écrit. Merci.
Dernière question ?
Oui. C'est juste une question sur un des... Les institutions dont on a peu parlé, c'est le Parlement européen. Je voulais savoir si le nouveau dispositif de désignation de la Commission, surtout du président de la Commission, change fondamentalement les rapports de force, justement, entre ces différents organes dont on a parlé. Voilà.
Ok, merci de ces deux dernières questions. Pour la banque tchéco-russe, j'ignore, je dois dire. J'ai vu, mais je veux dire, je n'ai pas creusé la question. Donc, je ne peux pas donner une réponse. Pour le consensus, mais là, il faut préciser que donc, quand je dis le Conseil européen décide par consensus, c'est-à-dire donc au sommet, pendant les réunions des 28 chefs d'État et de gouvernement, on décide par consensus. Sauf justement pour l'élection du président de la Commission, Juncker, où on a voté 26 contre 2, les deux étant les Britanniques et les Hongrois. Mais il faut distinguer le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement du Conseil des ministres, qui lui vote plus souvent, et ça c'est le traité qui dit pour tel ou tel domaine il vote, il a des décisions par majorité qualifiée, qu'on appelle ça, pour d'autres c'est par consensus. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que même si dans le traité, il est stipulé que, voilà, décision par majorité qualifiée, en 90% des cas, on décide quand même par consensus. C'est-à-dire, il y a une forte pression pour que tous se mettent d'accord à chaque fois. Mais cette pression peut s'exercer de façon plus efficace quand il y a le vote qui pèse comme une épée de Damoclès pour minoriser ceux qui ne voudraient pas être, qui ne voudraient pas se rallier à un compromis, tandis que dans le Conseil européen, ce n'est même pas le cas. On ne peut pas menacer de voter puisqu'on ne vote pas. Alors, le travail d'un président du Conseil, c'est de, voilà, à chaque fois de mettre tout le monde d'accord, et ça, c'est avec d'autres moyens politiques, la confiance, l'explication, les délais parfois, il faut prendre plus de temps. C'est très connu en Europe, on est toujours très lent, mais on utilise le temps comme instrument. Parce que si c'est grave aujourd'hui, peut-être c'est un petit peu moins grave dans 3 semaines ou dans 6 mois. Et c'est par ces moyens, mettons, informels, qu'il faut surmonter des obstacles qui autrement se présenteraient. Sur le Parlement européen et le nouveau mode d'élection du président de la Commission, il faut voir comment ça se développe. C'est clair que le Parlement considère aujourd'hui que c'est sa commission, puisqu'il a élu le Parlement, mais c'était un peu un coup de force, en fait, du Parlement et des dirigeants des partis au sein du Parlement de dire qu'ils n'accepteraient aucune autre proposition que celle qui résultait du scrutin en étant le candidat du plus grand parti, qui était Juncker. C'était avant tout les socialistes sous Martin Schulz qui avaient poussé, qui lui avait espéré remporter le morceau, mais qui a fini en deuxième. Et donc, tous les partis ont soutenu alors Juncker. Moi, je pense que ce fonctionnement, mais là encore, je suis un peu hétérodoxe peut-être par rapport à ce qu'on dit à Bruxelles, ça peut créer plus de confusion, en fait, parce qu'on fait à chaque fois comme si la Commission est un gouvernement européen, et si ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce qu'on change un mode d'élection que tout le fonctionnement, voire toute la structure institutionnelle européenne, bascule, et ça risque même de créer des désillusions futures à un moment où il vaut mieux ne pas promettre trop. Mais il faut voir comment ça va se développer pendant le cycle législatif, comme on dit en anglais, le jury est encore sur le terrain. The jury is still out, donc à voir, c'est intéressant. En tout cas, c'est une innovation institutionnelle qui vaudra sans doute la peine de continuer à suivre de près.